mari chercher oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une diplomatie au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le 31 octobre dernier, le monde a célébré la Journée mondiale des villes, une occasion pour les États de prendre conscience de l'importance d'assurer l'accès équitable et adéquat aux services urbains des bases, chemin idéal de l'urbanisation durable. Selon plusieurs observateurs, la RDC compte parmi les pays d'Afrique subsaharienne très peu urbanisés. À l'horizon 2025, selon les mêmes observations, la ville, la province de Kinshasa, pourrait faire face à une expansion démographique au-delà de l'offre des services urbains. Que faut-il faire pour relever ces défis? En direct, vous pouvez intervenir au 081-890-6315. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos messages et réactions sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiocapi.net. Merci à Dédoné Nyangasa qui assure la mise en onde de ce programme. Pierre Lamégie est à la réalisation. Gilles Pesa Bongonda gère les standards de ce programme coordonné et présenté par J.R. Mungembo sous la supervision de Leonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Mungembo.
Nous recevons dans ce studio nos invités. Il s'agit bel et bien de M. Bongi Effonda Efoloté, directeur du cabinet du ministre de l'Urbanisme. Bonjour M. Bongi.
Bonjour.
Alors nous avons aussi dans ce studio M. Adam Malam Kandine, qui est le responsable de l'unité de l'UN Habitat ici à Kinshasa. Bonjour M. Adam.
Bonjour.
Voilà, d'entrée des jeux, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se faire une idée, vous qui êtes partenaire de la RDC, à ce jour, en Afrique, est-ce qu'on peut confirmer que la ville de Kinshasa, notamment, peut être comptée parmi les villes qui connaîtront une croissance urbaine d'ici 2025?
Oui, je vous remercie. Bien entendu, la ville de Kinshasa fait partie des villes africaines, celles qui ont des populations les plus importantes. Actuellement, on la situe, disons, après Lagos, le Caire, la ville de Kinshasa a tendance à devenir donc la troisième mégapole africaine. Mais il faut d'abord dire qu'au niveau global de l'Afrique, on estime que 60% des populations en Afrique vivent dans les bidonvilles. Et si on se réfère à un certain nombre de critères qui définissent la notion de bidonville, notamment la question de la précarité de la propriété foncière, la question du manque d'accès à l'eau, la question du manque d'accès à l'assainissement, la vulnérabilité des constructions et la promiscuité. Donc, les taux d'urbanisation, d'une manière générale, en Afrique, est assez important. Et le continent africain, dans sa globalité, est considéré comme le continent qui a le plus grand taux d'urbanisation du par le monde. C'est ainsi qu'on estime que d'ici en 2020, nous aurons 505 millions de personnes qui vivront en ville en Afrique, contre en 1996 229 millions. Donc vous voyez l'importance de cette expansion de la population urbaine et évidemment aussi avec tout ce qu'il y a comme défis qui vont venir avec cela et que d'ailleurs qui sont là et que les villes africaines, les autorités africaines tentent de juguler avec un contexte économique qui n'est pas toujours favorable.
Alors, Monsieur Bongi, au niveau de l'État congolais, quelles sont les stratégies mises sur pied pour relever ces défis?
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Je tiens tout d'abord à remercier aussi le co-ordinateur qui est à ma droite, qui représente l'ONU Habitat, qui est un grand partenaire pour la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, dans la constitution de la RDC, il est dit que le Congolais a droit à un logement décent. C'est ainsi qu'au niveau du gouvernement, il y a des efforts, il y a même des actions qui sont actuellement menées dans le sens de la rénovation et la restructuration urbaine. Quand nous prenons, parce que nous parlons surtout de la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, nous allons voir que la ville garde encore sa structure coloniale. C'est-à-dire que nous avons presque une concentration de toutes les activités vers la Gombe, et que les autres communes, n'est-ce pas, sont dépourvues par rapport à la commune de la Gombe. C'est ainsi que maintenant, on est en train de penser sur la restructuration et la rénovation urbaine, c'est-à-dire aller dans le sens des créations de pôles d'attraction, des grands pôles d'attraction, où la personne, par exemple, qui habite UPN, n'a pas besoin de descendre à la Gombe pour accéder à des services sociaux de base ou peut-être pour faire ses achats, ainsi de suite. C'est ainsi que la stratégie du gouvernement, dans le cadre de la rénovation de la ressource urbaine, c'est de créer ces pôles d'attraction, notamment dans les endroits comme Victoire, au niveau de l'UPN, le rond-point Gaba, Ngili-Sainte-Thérèse, Pascal et Kitambo-Malaise. Donc il y a quand même c'est une préoccupation, une des priorités du gouvernement pour la rénovation de la restructuration urbaine, non seulement pour Kinshasa, mais aussi pour les autres villes de la République.
Voilà, on va écouter Félicien qui est à Kinshasa, juste à fond rouler. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour à nos invités et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole, Félicien, par rapport à la thématique. Que faut-il faire pour élever les défis qui nous attendent dans les jours à venir, d'ici 2020, pourquoi pas 2025?
Oui, moi je pense que nous sommes tous d'accord que nous avons connu, nous connaissons aujourd'hui un recul du niveau d'urbanisation de nos villes par rapport à l'époque coloniale. Et surtout la ville de Kinshasa. Vous trouverez qu'à l'époque, cette ville qu'on appelait Kinlabel n'a plus rien de Kinlabel. Une pluie de rues macadamisées, comme on en avait partout dans des quartiers comme Lemba, Yolo, Matete, Bandalungwa, partout. Tout se détruit et on n'a même jamais pensé à refaire toutes ces rues qui étaient belles et qui faisaient la beauté de ces quartiers-là. Et vous trouvez qu'il y a plus de logements sociaux comme on en avait à l'époque avec les maisons de Lemba, de Matete, tout ça. On n'a plus construit, bien sûr que sous la Deuxième République, on a construit Salongo, Binsoum, Salongo, Rigini aussi, Léopard et tout ça. Et on a construit aussi la Cité Verte et puis plus rien. Aujourd'hui, au contraire, on a vendu les motels Fitine à des privés qui sont en train de construire, c'est pas des logements sociaux, mais des maisons à revendre, alors que c'était patrimoine de l'État, et personne ne s'en occupe, personne ne dit mot, et ça passe. Et on a vendu même la foire internationale qui faisait la beauté de la ville de Kinshasa, alors que partout dans d'autres villes, vous trouvez des jardins dans tous les quartiers, dans toutes les communes où les gens doivent venir se reposer, les enfants doivent venir s'amuser, les gens viennent prendre l'air, réfléchir, lire. Chez nous, non, on vend tous ces espaces. Et tout est concentré d'un seul côté, et on descend le matin dans le même sens, on va en ville basse, et on remonte le soir, et même si on a grandi les routes, les embouteillages ne peuvent pas se terminer, parce qu'il n'y a pas d'artère qui se réduit. Par exemple, autour du fleuve Congo, on avait pensé créer une grande route qui devait aller jusqu'à l'aéroport, et on devrait les lier, par exemple, l'avenue Kianza qui part de la foire, comment je veux dire, d'échanger de l'unité, jusqu'à aller Bumbu, traverser, arriver même jusqu'au niveau de Mbinda là-bas. On ne pense pas à ça, par contre, nous sommes dans une histoire de.
Voilà,
nous sommes dans le cul de sac, donc nous sommes toujours coincés. Okay. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut bouger. Et les gens veulent construire, même ceux qui viennent construire des bâtiments, tous ils les concentrent du côté de la ville basse.
Voilà.
Comme si on ne peut pas élargir la ville, alors il y a des espaces partout où on pouvait élargir la ville.
Tout à fait. Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé. Étienne, vous êtes à Kananga. Bonjour, Étienne. Étienne, vous êtes avec nous.
Oui, allô, monsieur le maire, je suis Ali.
Oui, vous avez la parole, Étienne.
Oui, quand même, ok, ça va. Merci, monsieur le maire, pour votre invitation. D'abord, d'entrée de jeu, je me reste de me poser une question de savoir qu'est-ce qui cause les gens d'être attachés comme le sardine dans une boîte? Donc, il faut d'abord se poser la question afin de trouver une réponse. Personnellement, je pense que tout cela est dû à un salaire qui ne va même pas jusqu'au 15. C'est-à-dire, vous trouvez quelqu'un qui a une distance de 15 à 10 km, qui veut le faire être proche avec son emploi. Prenons faire le cas de l'hôpital du Bon Berger Chicago. C'est quelques kilomètres avec la ville. Et la majorité de ces travailleurs ont préféré peut-être tout près avec l'hôpital pour ne pas avoir de problème de retard. Si vous êtes à distance, vous êtes à dire que vous travaillez sur la ville. Donc, le transport allait c'est 1000 et retour c'est 2000. Le transport vous coûte 3000 francs par jour. Donc, vous prenez les 3000 francs, vous multipliez par 30 jours. Vous avez 90 000 francs, ne serait-ce que pour le transport. Maintenant, le salaire est de combien? Donc, la personne trouve que je suis payé à 700 dollars. À 100 dollars le mois, donc le transport coûte plus cher que mon salaire, je vais être collé à côté
de mon travail. Voilà.
Tout cela est dit, c'est parce que le social semble un peu être comme si durait le temps malade, il faut le soigner pour qu'il revienne pas en état normal. Moi, je pense qu'il appartient à notre gouvernement de mettre ce matériel en marche pour voir le fait de social de notre
pays. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé des Kananga. Justin, vous êtes à Fongouroné, bonjour. Justin, vous êtes avec nous. Justin, vous êtes en direct. Voilà. Justin est distrait. Nous revenons dans ce studio avec vous, Adam et Bongi. Alors, en tant que partenaire, c'est vrai, quand vous suivez les auditeurs, la population, analysez les faits, quel est le sentiment que vous avez et le travail qui est fait par le partenaire à ce jour consiste réellement en quoi, l'appui?
Oui, je pense que les citoyens, c'est légitime qu'ils posent ce genre de questions et c'est quelque chose qui est propre, en tout cas, à beaucoup de contextes. Et je dirais tout simplement que du point de vue aussi de la responsabilité des autorités, ne sont pas ou ne restent pas les bras croisés. Et vous avez suivi tout à l'heure les explications du directeur de cabinet. Il y a le fait que des efforts sont en train d'être faits pour accompagner le pays qui sort quand même d'une situation assez difficile. On est dans un pays qui a eu d'autres efforts à fournir dans le cadre de la restauration de la paix. Il y a beaucoup de questions qui sont importantes pour la RDC. Mais je voudrais tout simplement rappeler que depuis 2002, la RDC dispose d'un plan d'action nationale pour l'habitat. Et ce plan d'action nationale a été structuré de manière à prendre en charge la plupart des questions que les auditeurs ont déjà soulevées. D'abord, la question de la réhabilitation des équipements sociaux communautaires. C'est un des axes d'intervention de ce plan. Il y a la question de la promotion des parcelles assainies et des logements sociaux. C'est un élément important de cet axe-là. Et l'autre aspect, c'est la question du renforcement institutionnel. C'est-à-dire que depuis un certain temps, on a constaté qu'à RDC, l'administration, la capacité de l'administration à conduire l'urbanisation et la transformation de la ville a été butée à des problèmes d'insuffisance de cadre, des problèmes d'insuffisance de compétences. Et ce travail de renforcement, n'est-ce pas, institutionnel est un élément important pour répondre à tous ces défis. Parce que c'est quand même le pouvoir public qui doit orienter, qui doit prendre action afin que toutes ces questions-là soient mises devant. Pour soit réglé. Donc, c'est important que que l'on comprenne que entre beaucoup de priorités, il faut bien faire le choix. Mais au niveau des organisations comme ONI Habitat, nous sommes là pour appuyer justement à ce que les autorités puissent développer ces initiatives. Le plan d'action national pour l'habitat a été mis au point avec l'assistance technique de ONI Habitat et je pense qu'aujourd'hui, ce plan n'a pas eu peut-être le financement qu'il faut, mais il y a certainement des choses qu'il faut peut-être réactualiser et peut-être remettre dans le circuit des priorités, n'est-ce pas, le financement de ce plan d'action.
Oui, alors, Monsieur Bondy, est-ce qu'à ce jour, il faudrait renforcer la gestion même de l'espace, disons, de l'espace urbanistique par un cadre légal?
Oui. Merci, monsieur le journaliste. Je dois, avant de répondre directement à votre question, je vais quand même apaiser les préoccupations de l'auditeur de tout à l'heure, monsieur Félicien.
qui a dit que voilà, il y a des exemples depuis la, l'école de la coloniale, oui, où il y avait des constructions qui ont été érigées à travers la ville, mais que depuis lors, rien n'est fait, et que même la voirie est négligée. Non, je prends par exemple, quand vous prenez des cas aujourd'hui, la commune de Matete, par exemple, il y a des travaux de voirie qui ont été effectués. Vous prenez la commune de Mandal,
Calamou,
Calamou, vous allez voir qu'il y a des travaux de voirie qui ont été exécutés. Alors, ce qui concerne les logements, vous savez, le développement d'un État, l'État crée des conditions pour le développement. Et pour la construction de ce qu'on appelle les logements sociaux, peut-être les logements à coût réduit, l'État peut le faire soit lui-même, soit alors en s'associant avec l'État privé, dans un partenariat public-privé. Et c'est le cas que nous avons au niveau de la Fond internationale de Kinshasa, partenariat avec l'État et l'entreprise chinoise CCC. Et puis, au sein de Concerne Bandar, vous avez un partenariat entre l'État congolais et l'entreprise chinoise, la SZTC. Donc, dire que l'État ne fait rien, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. C'est un peu exagéré de dire que l'État congolais ne fait rien. Non, vous avez aujourd'hui, avec les privés, notamment la cité du fleuve. Mais la difficulté que nous avons aussi, il y a le projet avec la Beba Gaza, donc dans la cité de l'espoir. Donc, c'est ça un peu. Mais la difficulté que nous avons, c'est sur les coûts de ces maisons-là. Donc, qui ne sont pas toujours les taux de ces bourses. C'est pas la portée de toutes les bourses, c'est pas un problème de viabilisation des sites. Et s'il y a pas une viabilisation des sites, quand l'investisseur va mener tenir, procéder d'abord à la viabilisation des sites et commencer maintenant la construction des maisons, ça pèse sur le prix de ces maisons-là. Alors, revenons maintenant à votre question, ce qui concerne le cas de l'État. Oui, nous avons connu quand même des petites difficultés dans notre plan, ce qui concerne des plans d'aménagement. Un schéma national d'aménagement, un plan national d'aménagement, c'est ça un peu ce que nous avons manqué dans notre pays. Mais il y a quand même un travail qui est fait, notamment au niveau du ministère, pour doter la RDC d'une politique nationale d'aménagement des territoires, c'est-à-dire pour décider de l'affectation, je veux dire ainsi de suite, de l'affectation des espaces et leur utilisation rationnelle aussi. Alors, je dois aussi souligner qu'en ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, aujourd'hui, nous avons un schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, qu'on appelle le SOSAC, élaboré par le PDI avec l'assistance de la coopération française, et que ça, c'est déjà un texte aujourd'hui, c'est ça le cadre légal. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain pour la ville de Kinshasa, où il y a des espaces réservés pour la construction des logements, les espaces réservés pour les équipements communautaires, pour les cimetières, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même déjà, sur le plan légal, il y a des avancées significatives.
Est-ce que vous bénéficiez également de l'accompagnement des partenaires, entre autres le lieu habitat?
Oui, mais c'est un partenaire de tous les jours. Donc, c'est parmi ceux que nous avons. Il y a la coopération française, il y a l'ONU Habitat, il y a, nous avons aussi aujourd'hui avec le PLUD qui tient aussi à nous accompagner, il y a le Japon aussi. Donc, nous avons tous ces États-là, tous ces partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Et pour que nous puissions renforcer les capacités de nos agents, mais en même temps, l'idéal, c'est d'avoir une politique nationale d'aménagement du territoire. En ce moment-là, on pourra avoir une bonne politique.
C'est parce que 2020, c'est demain. Oui. 2025, c'est déjà demain,
oui.
Mais au regard du faible taux d'urbanisation que connaît actuellement nos villes, que connaissent nos villes actuellement, est-ce que nous serons réellement au rendez-vous d'ici 2020?
Oui, 2020, c'est dans 5 ans. Il y a bien un grand travail qui se fait. Et je suis sûr que d'ici 2020, on n'aura pas un taux de 100% d'urbanisation, mais il y a quelque chose qui sera.
Parce que quand nous prenons juste le cas de Lingwala aujourd'hui, ce sont des vieilles communes, Kinshasa, Barumbu, au fait, au regard de ce qui se passe actuellement dans ces communes, ou les cités qui sont là, vous sentez qu'il y a tellement une forte concentration, une densité de la population, mais aujourd'hui cette population fait face à plusieurs défis, notamment des inondations, des cas d'inondations, quand il pleut, il y a des problèmes de salinité, il y a... Bon, en fait, il y a même d'autres observateurs qui sont allés plus loin pour demander à ce qu'on puisse rénover ces communes.
Oui, c'est-à-dire ce sont en fait des vieux quartiers qui méritent une restructuration, une rénovation. pour que nous puissions doter les Congolais quand même d'un logement décent. Et je profite aussi de cette occasion pour annoncer que maintenant nous avons un grand projet. Un grand projet avec une société, ce sont des partenaires privés pour la création d'une nouvelle ville de Kinshasa, vers la partie est. Nous avons aussi un problème psychologique dans notre pays où tout le monde croit que résider à Kinshasa, c'est être à Lingwala, être à Matongé, être à Kasavubu, à Bandal, à la Gombe, etc. Il faudrait aussi que nous puissions, sur ce terrain, sur le plan psychologique, chercher quand même à sensibiliser la population pour que les gens puissent, avec l'effort qui va être fait, avec le nouveau projet, le projet sur la nouvelle ville de Kinshasa, où on aura à avoir tous les services de base, n'est-ce pas, de ce côté-là, pour que les gens acceptent. Okay.
Alors, je ne sais pas, Louni Habitat, comment comptez-vous accompagner le gouvernement pour que finalement on puisse relever ces défis d'ici 2020?
Oui, tout à l'heure, je vous parlais du plan d'action nationale pour l'habitat. Et le directeur vous a parlé d'un certain nombre de fonciers également qui doivent permettre de structurer la question du développement urbain. Donc, nous, au niveau de l'habitat, nous apportons l'expertise et également participons à la recherche aussi des financements pour que l'État, la RDC puisse mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs qu'il voudrait mettre en place pour une urbanisation contrôlée. Parce que la question ici est à deux niveaux. Il y a des quartiers pour lesquels il faut un travail d'assainissement, il faut un travail de réorganisation de l'espace vital, mais aussi il y a les projections, les villes nouvelles et les autres espaces dans lesquels il va falloir projeter l'urbanisation. Donc quand on prend la question de l'existant, quand on regarde le taux d'espace des populations qui sont dans des bidonvilles, et c'est ça l'un des enjeux, l'une des choses les plus importantes pour les villes africaines. Parce que aujourd'hui, en l'absence, n'est-ce pas, d'outils de planification urbaine ou de mise en œuvre, en tout cas des politiques ardues en matière d'urbanisation urbaine, les populations s'installent là où elles peuvent. Le taux, n'est-ce pas, d'occupation de l'espace de façon anarchique est très important dans les villes africaines. C'est en cela qu'il faut travailler pour que on puisse utiliser des mécanismes qui vont permettre d'avoir un effet sécurisé aux espaces, mais aussi qui permettent d'accéder aux services sociaux de base. Parce que l'auditeur qui parlait des transports, c'est important. Lorsque on se rend compte qu'on est obligé d'être loin, n'est-ce pas, des centres d'intérêt, c'est parce que dans les endroits où on va s'installer, il n'y a rien qui puisse permettre non seulement de mener des activités socio-économiques pour pouvoir résider dans ces endroits. Il faut qu'on se déplace à des dizaines de kilomètres pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, l'emploi nécessaire. Je pense que c'est ça les projecteurs, et c'est la raison pour laquelle on y habite en commission d'aider les villes partenaires à prendre l'engagement d'utiliser des outils d'urbanisation, de planification surtout de cette urbanisation. Mmh. Et ça, nous sommes là pour ça. Le bureau Afrique de l'Union Habitat pour la région Afrique accompagne les États.
Mais l'urbanisation a un coût quand même. Avez-vous eu le temps d'évaluer ces coûts aujourd'hui, parce que 2020, c'est demain?
Oui, l'urbanisation a un coût et c'est un défi pour l'ensemble des acteurs. Tout à l'heure, le directeur de cabinet parlait, n'est-ce pas, des possibilités d'adresser ces questions-là à travers les partenariats publics-privés. Il y a les initiatives que les acteurs prennent, mais aussi, vous savez, quand vous construisez une maison, c'est une propriété privée. Et donc, lorsqu'on doit solliciter l'effort, n'est-ce pas, de cette personne-là, ça peut être à travers beaucoup de mécanismes. Et lorsqu'on parle, par exemple, dans le cadre du plan d'action pour l'habitat, on parle de parcelles assainies. Ça veut dire que quelque part, les pouvoirs publics doivent faire l'effort de mettre à la disposition, par exemple, des opérateurs privés qui doivent construire des maisons ces parcelles-là. On sait que ça a un coût. Et c'est ce genre d'opération qui doit permettre d'amortir le coût pour justement les citoyens afin qu'ils puissent accéder à des logements sûrs. Parcelles assainies, c'est aussi des endroits dans lesquels on est sûr que quand on fait la construction, elle ne va pas s'écrouler. C'est prendre en charge toutes les questions liées à l'environnement, les questions liées à toutes ces zones insalubres pour les constructions. Et tous ces éléments, aujourd'hui, sont mis sur la table pour dire que pour construire, pour projeter des villes, il faut absolument prendre en charge tous ces volets-là.
Voilà. Alors, on va repasser de l'autre côté du standard avec Arsène qui est à Kikwit, Maître Machaka Lubashi, Jean-Denis à Kinshasa. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Arsène.
Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez la parole, Arsène. Quel est votre avis?
Merci beaucoup pour la parole, Monsieur Gilles. Moi, je pense que ces histoires, aujourd'hui, nous devons y réfléchir, parce que le demain risque d'être catastrophique. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'urbanisation, dans l'assainissement d'une ville, il y a plusieurs éléments qui interviennent. D'abord, on commence d'abord par la gestion de la terre. Je vais prendre juste l'exemple de ma ville. La ville de Kikwit a une petite superficie et il y a une grande concentration de la population. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par changer l'espace qui est occupé par l'urbanisation. Ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'il y a des terres agricoles et il y a des terres réservées pour l'habitat. Qu'est-ce qui se passe dans l'habitat? Dans l'habitat, il y a des espaces pour l'industrie, il y a des espaces pour la résidence, il y a des espaces pour les écoles, ainsi de suite, hôpitaux, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? On laisse la gestion de la terre à ceux qu'on appelle les chefs de terre. Au même moment qu'on laisse ces terres qui sont prévues pour l'agriculture,
Oui, allez-y, Arsène.
Ok. Les terres qui sont prévues pour l'agriculture, vu le nombre de la population qui est en train d'augmenter du jour au jour, maintenant, les gens ont besoin de terres. Qu'est-ce qui se passe là? N'importe qui vend les parcelles, n'importe où et dans n'importe quelles conditions. Les autorisations de bâtir, ce sont des papiers qu'on est en train de vendre. Et donc, c'est vraiment, il y a un désordre. Donc, s'il faut voir 2020, pour moi, par exemple, ici à Kikwit, qu'est-ce que je dirais? La ville de Kikwit doit commencer par Sewa jusqu'à Kikongo. Ça, c'est du nord vers le sud. De l'est, je vais prendre de Kaboudi jusqu'à Kimputuseke. Tout cet espace doit être occupé par la ville de Kikwit. À partir de là, le service d'urbanisme doit maintenant faire son plan. Où il faut établir les habitats, où il faut réserver les terrains d'espace comme jardin, où il faut établir tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse vivre. Mais aussi longtemps que le service d'urbanisme, le service d'habitat, le service foncier ne peuvent pas collaborer ensemble, il n'y aura rien. On peut faire n'importe quoi, il n'y aura rien.
Donc il faut une collaboration, il faut que ces services travaillent en synergie.
Oui, il faut que ces services travaillent en synergie et il faut que les techniciens qui sont là soient compétents. Il faut qu'ils aient une vision. Et la construction des maisons, ce n'est pas n'importe qui construit. Il faut avoir des moyens pour ne pas être... On commence par la fondation, on arrive au niveau de l'Enton, on s'arrête pendant plusieurs années. Non, l'État doit avoir une politique d'urbanisme conséquente.
Voilà, si je comprends bien, Arsène, vous vous préoccupez du fait que qu'il y ait absence donc d'un cadre légal qui définit en fait les limites des uns et des autres. Parce que si aujourd'hui on a un recul au niveau de l'urbanisation, c'est lié à ce manque de collaboration. On ne sait pas qui fait quoi, l'urbanisme, l'habitat, les gestionnaires de la terre. Bon, finalement, il y a une confusion à croire vos propos. Merci beaucoup. Arsène, notre invité, pourrait nous éclairer là-dessus. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Gier, bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi.
Vous avez la parole, Maître Machaka.
Merci beaucoup, monsieur Gier. Vous savez, les sujets qu'on traite aujourd'hui, c'est un sujet d'une importance capitale puisque ça concerne la vie de la population. Vous savez, aujourd'hui, le non-respect des urbanisations, monsieur Gier, a beaucoup de conséquences et de répercussions. Et à mon humble avis, monsieur Gier, les responsabilités sont partagées. La population est responsable et les autorités des villes sont responsables aussi. La population est responsable dans quel sens, monsieur Gier? Aujourd'hui, nous, peuple congolais, on ne voit pas ce qui peut parvenir, qui proviendrait demain. Nous construisons en désordre. Mm-hmm. Que ce soit dans les anciens quartiers et dans les nouveaux quartiers. Vous allez aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver dans les anciens quartiers. Les Blancs ont laissé les espaces vides. Et c'est pourquoi ils ont laissé ces espaces vides. Peut-être que pour prévenir une telle situation qui pouvait survenir dans l'avenir. Mais pour nous, nous trouvons ça, il faut construire, et c'est là en complicité avec les autorités. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que chez il y a certains quartiers, pendant la saison des pluies, les quartiers disparaissent. Puisqu'il n'y a pas moyen que la population puisse vivre là-bas compte tenu des érosions et de certaines catastrophes. Je vais donner le cas d'un quartier ici à Lubumbashi, le CGR, qu'on appelle le quartier Kabecha. Tout le monde connaît ce quartier-là, du côté de Kampemba. Dans ce quartier-là, dès que la pluie commence, la population commence à emballer les histoires pour déménager.
Ouais.
Et quand ils déménagent comme ça, le CGR, après la pluie, il revient encore. Bien qu'on maintenant les autorités de Kiter pour mettre fin à ces désordres-là. Deuxièmement, le CGR, vous savez, dans les temps, il y a trois services qui travaillent ensemble. Il y a la régie des eaux, il y a la SNL et les services d'habitat. Quand on a loti un nouveau quartier, ils travaillent ensemble comment? Puisque l'office de route aussi était du deuxième quartier. On trace les routes, les tuyaux de régie des eaux passent et les câbles de la SNL passent aussi. Maintenant,
aujourd'hui, on est fait. Voilà. C'est le désordre. Merci beaucoup, Maître Machaka.
Les inondations et les désordres.
Voilà, merci beaucoup, Maître Machaka.
Et l'absence des sanctions, mais c'est GL qui fait tout ça. Parce que lorsque les gens et les autorités des IPL et la population construisent un désordre comme ça,
le résultat est celui-là. Merci beaucoup, Maître Machaka. Jean-Denis, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Maître GL.
Vous avez la parole.
Oui, moi je suis à Kinshasa, j'habite au quartier Bibou à Sabi, nord de l'aéroport international. Je ne sais pas ce que le monsieur-là de l'urbanisme et habitat contre le dit. Nous ici, nous le voyons, c'est-à-dire qu'il y a l'absence totale de l'État dans ce projet-là d'urbanisation et consort. Pour la simple raison que même les routes, vous voyez, il y a une grande route qui commence par 6 ou 7 mètres et à la fin, ça devient un sentier. C'est-à-dire quoi? Nous n'avons même pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a ni électricité, donc nous ne voyons même aucun service de l'État. Donc voilà, nous sommes un peu perplexes dans tout ce qui se passe, dans tout ce qu'il dit. Je ne sais pas
voilà,
si
je ne sais pas si on peut quand même nous situer, Jean-Denis. Vous dites que vous êtes à Kinshasa, le quartier d'Ibois, c'est le quartier où passent les pylônes de l'RDA, je crois.
Non, c'est-à-dire que non, nous sommes, je disais le quartier d'Ibois, c'est à 6 km de l'aéroport international.
À 6 km de l'aéroport, voilà. Oui. Donc ce n'est pas l'espace réservé à l'RDA. Parce qu'à un certain moment, il y avait des débats, avant même le lotissement de ces lieux, que ce serait l'espace, par exemple, de l'RVA que les gens ont construit anarchiquement.
Non, pas là-bas. Nous sommes dans un quartier qu'on a loti.
On a loti officiellement. Mais l'urbanisation n'avait pas suivi. Merci beaucoup, Jean-Denis. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le courant avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Voilà, une fois encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous demandons à l'artiste Kadiombo qui vient de nous rejoindre de garder la ligne. On lui accordera la parole d'un moment à l'autre. Alors, monsieur le directeur du cabinet, monsieur Bongui, vous venez de suivre. Je crois qu'à ce moment, il y a des préoccupations des auditeurs. Ils aimeraient bien connaître de front en comble les stratégies mises en place par le gouvernement congolais aujourd'hui. Parce qu'on a donné les cas, par exemple, à Kinshasa, la cité Bibois, où on ne sent pas l'urbanisation. Il y a tant d'autres auditeurs qui ont évoqué également des problèmes de confusion, la collaboration entre les services et l'État, notamment à l'urbanisme. Alors là, ça relance encore le débat d'un cadre légal qui pourrait définir les limites des uns et des autres.
Merci beaucoup. L'intervenant de tout à l'heure, M. Jean-Denis Kabite Bibois, je crois que s'il peut bien se rappeler que pas plus tard que le mardi passé, il y a une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre qui a procédé à la visite depuis le site Renatexat sur la rue de Bandundu jusque nous sommes arrivés jusqu'au cimetière de Kassavubu et les gens peuvent voir les décisions qui ont été prises. Dire que l'État ne fait rien, c'est trop fort. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, il y a une campagne de sensibilisation. On doit sensibiliser notre population pour savoir où construire et où ne pas construire. Et si on veut construire, on s'adresse à qui? C'est ainsi que, jeudi, à partir de jeudi, nous lançons officiellement la campagne sur l'obligation du permis de construire pour que les gens puissent être au courant où est-ce qu'on peut aller,
on obtient l'autorisation de bâtir où, on veut avoir un terrain, on va s'adresser à qui. Parce que souvent, il y a une confusion dans les attributions entre l'urbanisme et l'habitat et les affaires foncières. Nous, en tant qu'urbanisme et habitat, d'ailleurs, actuellement, c'est la préoccupation des deux ministres, le ministre de l'Aménagement du territoire, urbanisme et habitat, et celui des affaires foncières, pour que nous puissions arriver à réactiver la commission interministérielle qui aura pour tête d'examiner tous ces problèmes pendant tous ces problèmes cruciaux et faire des propositions à l'autorité. L'urbanisme intervient en amont. C'est-à-dire, c'est l'urbaniste, s'il y a un site qu'on veut l'outil, c'est l'urbaniste qui doit voir, qui doit faire maintenant le plan d'aménagement. Et c'est seulement après avoir fait ce plan-là que les affaires foncières vont maintenant matérialiser ce qui a été fait par l'urbaniste. Mais la difficulté que nous avons, c'est que la plupart de nos compatriotes, eux-mêmes, occupent déjà les terrains, ils les achètent auprès du Sokoutou, des Sokoutouniers, et puis après, ils viennent dire, non, voilà, l'État ne fait rien, l'État ne nous accompagne pas, tout ça, alors que quand la personne est allée occuper, elle est partie d'abord, elle est partie d'elle-même, et après, elle va demander maintenant l'accompagnement de l'État. Alors que ce qui devait être fait, c'est l'État qui devait anticiper, c'est l'État qui devait d'abord être présent, et puis après, la population va suivre. Donc, il y a un grand travail qui se fait dans ce sens-là pour arriver à conscientiser la population. Et c'est la campagne qui est en train de passer maintenant au niveau de la presse pour la vulgarisation du permis de construire, pour que les gens puissent savoir où construire et où ne pas construire. Donc ça, c'est un élément important. On construit où? On ne peut pas construire où? Vous allez voir les gens le construire dans les cimetières, dans les sites agricoles, sans obtenir préalablement le changement d'affectation de cet espace-là. Donc c'est un peu un problème parfois aussi du manque d'informations. D'où la forte campagne de sensibilisation pour que la population pour se connaître ce qu'elle doit faire et à qui ou on veut ou n'est-ce pas, on doit les faire. C'est pour
avoir des enfants. Alors, monsieur Adam, on sent, je donne un exemple comme ça qui me passe par la tête, l'OMS s'impliquer davantage dans des cas de sensibilisation sur différentes maladies, par exemple, dans l'accompagnement de la mission régalienne de l'État. Mais l'ONU Habitat, c'est aussi un partenaire considérable. De moins en moins, on vous sent dans la sensibilisation avec pompe, comme on les fait par exemple pour les vaccinations, question de pouvoir en fait pallier un peu à ces déficits de communication entre le gouvernement et la population.
Oui, je pense que par rapport à la question de sensibilisation, ça dépend peut-être des périodes dans lesquelles nous nous situons. Actuellement, ce que nous sommes en train de faire dans la ville de Kinshasa, nous avons au niveau de la commune de Matina le projet participatif d'amélioration des bidonvilles, qui est un projet qui est mis en œuvre dans un cadre participatif. C'est un projet pilote qui est important, c'est-à-dire que nous nous sommes adressés aux populations de ce quartier pour dessiner avec eux comment exactement il faudrait prendre en charge les questions cruciales de ces quartiers. Par exemple, la question de savoir comment adresser le problème de l'assainissement, les problèmes d'eau potable, les problèmes de la promiscuité. Et donc, c'est un projet qui est en train d'apporter une réponse dans un cadre pilote dans le cadre de ce quartier. Et les actions de sensibilisation se font de façon à faire une action de proximité dans lesquelles les populations, elles vont organiser en comité et se chargent de sensibiliser les populations de ce quartier. Mais d'une manière générale, je pense que la question de la sensibilisation est bonne, mais il faut agir aussi sur les politiques. Actuellement, nous avons un partenariat clé avec le ministère des Affaires foncières dans le cadre de la réforme des espaces foncières. Et nous sommes aux côtés également du ministère en charge de l'aménagement du territoire afin que nous puissions intervenir dans le cadre de la réforme de l'aménagement du territoire dont les grands axes vous ont été définis tout à l'heure. Je pense que s'attaquer aux problèmes cruciaux d'un pays, c'est aussi agir sur des politiques et c'est de travailler sur des documents qui ont rendu visibles ces enjeux et qui vont prendre en charge ces enjeux-là. Donc, nous sommes partenaires, comme il a été dit par le directeur des cabinets, de ce ministère-là, comme du ministère de la Santé. Et vous avez vu, de par les interventions des auditeurs, il ressort qu'il faudrait aborder la question de l'urbanisation de façon globale et holistique. C'est ce que nous essayons de faire et ONU Habitat met à la disposition des États des instruments qui permettent d'aborder cette question-là de manière à ce que toutes les questions, que ce soit en amont ou en aval, des constructions, des aménagements des espaces puissent être intégrées pour que l'urbanisation n'apparaisse pas seulement quelque chose qui va être fait à la faveur d'une seule catégorie, n'est-ce pas, des citoyens. Donc, l'élément le plus important, non seulement l'organisation et la viabilisation des espaces, mais aussi tout ce qu'il faut faire pour que les gens puissent accéder aux services urbains de façon coordonnée, de façon globale et de façon aussi rationnelle et efficiente. C'est-à-dire que les services urbains ne coûtent pas cher. Quand on voit le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès à l'électricité, aux égouts, etc., dans les villes africaines, c'est très faible. Or, penser une ville dans la tête des individus, ça doit être un lieu dans lequel on a accès à ce bon service.
Merci beaucoup. Alors, l'artiste Kadiombo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard.
Voilà, vous avez la parole.
Je remercie vivement tous les... ceux-là qui débattent au plateau, y compris mon enseignant Bongui qui m'a donné cours de deuxième grade jusqu'en deuxième licence. Donc, le problème de la République n'est pas au niveau des terres. La République démocratique du Congo, les autorités n'ont que des projets dans le futur, au lieu d'améliorer ce qui est le présent. Je rentre sur ce qu'il a dit, mon enseignant, à propos de l'aménagement au niveau de la commune de Bandal, où nous avons habité tous deux. Mais allez voir, quand on cure les caniveaux, on sort du sable et des immondices, on les met sur la route et on les abandonne là-bas. C'est ça le travail de l'aménagement du territoire. Une pluie torrentielle qui arrive, ils retournent tout dans les caniveaux. Voilà les éternels recommencements. Lorsque je prends un terrain loti par le pouvoir public, par le truchement du ministère des Affaires foncières et de l'urbanisme, je vous rassure, monsieur, vous pouvez aller et vérifier. Prenez le cas de Tembe-la-Tembe comme de IEM, comme de Sokopao. C'est le pouvoir public qui vend ce terrain, qui lotit. Et les gens détiennent des titres immobiliers légaux qui sont signés par les autorités de tutelle. Après, on va vous dire, on va urbaniser, on casse tout et on ne punit jamais ces gens qui ont vendu ce terrain. Ils sont toujours comme des poissons dans l'eau. J'arrive là où j'habite présentement à Mongafula. On venait d'asphalter la grande route. Allez voir, on a le marché de Matadikibala sur la chaussée. Et les ministres passent par là, les premiers ministres passent par là, les chefs de l'État passent par là, et rien n'est fait. Et tout cela, c'est dû à quoi? Lorsque je descends dans une autre concession que j'ai au niveau du site Munkamba, c'était bien normalisé et tout le reste. Mais une autorité de la place est venue barrer la route et construire. Souvent, c'est toujours l'autorité. Je veux émailler cela par un exemple qui n'a rien à voir peut-être avec l'urbanisme. Regardez les séparateurs sur le boulevard ou alors les séparateurs au niveau de Delvaux. C'est pour permettre à ce qu'il y ait une bonne circulation. Mais qui met le désordre? Vous verrez un ministre aller dans l'état public et derrière le ministre, c'est toute une file de gens qui suivent. Et ce soit un général, un colonel, un député, et c'est toujours les gens qui chapeautent le pouvoir qui mettent du désordre. Quand vous arrivez dans un lotissement nouveau, nous n'avons jamais vu le pouvoir public par l'aménagement du territoire ou les affaires foncières ou la mairie de la ville réserver une place pour le terrain de football, le terrain de basket, pour le marché, pour le centre de santé. Il n'y a rien. Ils vendent alors tout et puis ils se plaignent après pour dire qu'ils ont un plan d'aménagement. Je trouve que le problème n'est pas au niveau de la population. C'est le pouvoir public qui organise la population. Et le professeur Bongui me l'a appris à l'université. Quand il dit que non, vous ne savez pas là où vous allez chercher, on va faire une campagne pour montrer aux gens là où ils peuvent aller chercher des documents. Non, monsieur, les gens savent bien, ils ont les autorisations de bâtir, ils ont les contrats de location, ils ont tout. Le problème, c'est que le pouvoir empoche et oublie et laisse la population à son triste sort. Voilà le problème réel. C'est-à-dire, l'urbanisme n'est pas l'affaire de la population. On n'est pas géomètre. C'est le pouvoir public qui va s'en occuper.
Merci
voilà
beaucoup.
Ma contribution.
Merci beaucoup, l'artiste Kadiombo, d'avoir accepté de contribuer dans cette émission. Et vous venez là d'évoquer un problème de fond, un problème sérieux. Il y a même un auditeur qui nous a écrit en évoquant la question, au fait, les sites d'espoir, la cité de l'espoir, comme on l'appelle ici à Kinshasa, qui, selon lui, en tout cas, cette cité est abandonnée l'urbanisation n'a pas suivi et le gouvernement fait sourd oreille. Finalement, on va où? C'est la question qu'il pose. Et elle a été relayée par une demoiselle qui a préféré garder l'anonymat, qui pose la question sur ces fameux plans d'urbanisme ou d'urbanisation de la ville de Kinshasa ou d'autres villes nationales. Il y a la question sur l'éducation, sur l'urbanisme absente au niveau des écoles. Alors, quand on construit des routes, il faut qu'on tienne compte des normes pour que cela soit construit selon les standards universels. Voilà, c'est ce qui fait que on a tous ces problèmes. Madame Marie-Cécile, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, madame.
Bon, merci. Et j'abonde dans le même sens que le monsieur qui vient de me précéder, qui habite Mongafula comme moi. C'est un problème. Donc, prenons le cas de la ville de Kinshasa. Nous n'avons pas eu des dirigeants qu'il faut. Ça, il faut de reconnaître. Pendant du temps de Mobutu, on a eu quand même à l'hôtel de ville des gouverneurs qui ont laissé des signes positifs. Et depuis lors, il n'y a plus rien. Et tout ce qu'on a à l'hôtel de ville agit de la même façon et ne s'occupe pas de la ville comme telle. Prenez, je me demande si on planifie ou on programme des travaux ici au Congo. Prenons de ça, c'est du tronçon rond-point là-bas, cité verte. C'est dans un état de délibération de la délibération totale. Et personne ne s'en occupe. Par contre, on est en train de construire des passerelles. Est-ce que vraiment construire des passerelles aménager cette route-là. Où était la priorité? Prenons la route qui rompt les arbres jusqu'à qui moins en question. La même chose. Ici chez moi, non loin de la cité verte, là où on appelle Bellerie, ça a été même adopté au Parlement qu'on devait, c'est un kilomètre ou deux tout au plus, il devait être asphalté depuis la défaite. Rien n'est fait. Et quand vos intervenants sont dans le projet, on dirait qu'ils ne vivent pas, ils n'ont pas de tête sur terre en disant, voilà, on a fait l'IMP, tout ça. Mais quand on fait des petits tronçons comme ça, vous terminez un kilomètre, vous êtes dans la boue, vous entrez. Est-ce que c'est ça travailler? Est-ce qu'ils peuvent nous dire, vous pouvez quitter la ville, arriver par exemple ici à Mongafula, sur une route bien asphaltée. Il y a des tronçons
qui
sont impraticables et d'autres.
Voilà,
c'est vraiment des problèmes d'hommes à mon avis. Il faut changer les hommes.
Voilà,
on dirait que depuis que les chefs qui nous dirigent maintenant sont au pouvoir, ils ne savent pas ce que c'est que...
Voilà. Alors, madame, on comprend bien votre souci, c'est que ce qui est fait, c'est bon, vous saluez demain, mais vous demandez à ce que la politique d'aménagement de nos villes puisse aller au-delà de ce que nous avons pour permettre à ce que l'expansion démographique que nous connaîtrons d'ici 2020 puisse vraiment faire face à l'offre des services urbains appropriés. Merci beaucoup, madame Marie-Cécile. Jean-Baptiste, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Jean-Baptiste. Bon, alors on a des petits soucis avec la ligne de Jean-Baptiste, on parle plutôt Jean-Claude qui est à Kindou. Jean-Claude, vous êtes à Kindou?
Oui, je suis à Kindou, Jérôme.
Voilà, allez-y.
Oui, Jérôme, c'est juste vous dire que si tout ce que nous sommes en train de parler n'est pas correct, c'est suite à l'administration de l'État qui est faible. Imaginez-vous un JR, nous critiquons le gouvernement, c'est parce que juste l'administration n'est pas correcte. Imaginez-vous une comté de Kindou. C'est depuis l'époque de l'État. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la ville, bien sûr, on fait des... Mais la ville n'est pas urbanisée. On ne sent pas vraiment cette volonté. Il y a la division d'urbanisme, mais il y a le ministère d'urbanisme. Mais on ne sent pas vraiment ce que la division et le ministère est en train de faire. C'est juste ça. L'administration est faible, JR.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Alors, nous allons commencer par ce dernier auditeur qui a parlé de l'administration au niveau de l'urbanisme qui est faible. Voilà, comment vous réagissez, monsieur le directeur de cabinet?
Merci beaucoup. Il y a l'intervenant tout à l'heure, avant de parler un peu de l'efficacité ou non de notre administration,
il y a un intervenant qui a dit que les gens posent des actes, mais il n'y a pas de sanctions. On part, on détruit, on démolit des maisons, et ainsi de suite, on ne sanctionne pas. Je crois que les gens ont suivi à la presse dernièrement, le premier ministre, celui du gouvernement, a donné des instructions claires et nettes qui vont être appliquées immédiatement pour sanctionner tous les agents, cadres, fonctionnaires, ainsi de suite, impliqués dans la délivrance des titres sur des sites non édificants. C'est-à-dire que là où on ne devrait pas construire, on a délivré des documents, mais ces gens-là ne vont pas rester impunis. Il y a des instructions claires qui ont été données et les sanctions vont tomber au courant de cette semaine. Là, c'est vraiment c'est acquis. Alors, s'il faut suivre tout ce que les intervenants sont en train de relever, c'est un problème d'urbanisation sans urbanisme. Donc, on est en train de faire une urbanisation désordonnée. C'est ainsi que actuellement, le gouvernement travaille dans le sens de pouvoir réduire l'occupation contrôlée des terrains au milieu urbain congolais. Deuxièmement, il faudrait arriver à aménager les terrains à des coûts adaptés au niveau de la grande majorité de la population de l'Union, aménager le territoire national et organiser la planification urbaine. Or, cette planification urbaine ne peut être faite, ne peut être accompagnée que par des cadres bien formés, des cadres, n'est-ce pas, qui maîtrisent bien les technologies modernes. Oui, c'est maintenant pour un géomètre qui doit aller descendre sur le terrain, par exemple, il n'a plus amené son décamètre comme à l'époque, il doit prendre plutôt le GPS, ainsi de suite. Donc, il y a cette forme-là qui est faite pour le renforcement des capacités. Et c'est là où nous comptons sur nos partenaires, notamment pour que nous puissions avoir des gens bien formés. Et n'oublions pas que nous faisons aussi face à un problème, c'est que les mises à la retraite de 2009 et de 2010, on fait partie beaucoup des cadres qui étaient formés après l'époque coloniale. Tous ces cadres-là sont partis et nous avons ce déficit-là des cadres à travers le territoire national avec des mesures de mise à retraite.
Il y a un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa.
Oui,
alors, on a une discussion. Les colons avaient laissé quand même l'ancien plan d'aménagement de la ville.
Oui, il y avait un plan d'aménagement de la ville, mais aujourd'hui, avec l'extension de la ville, ce plan-là est vraiment ce déficit-là. Il y a un nouveau plan maintenant. Le schéma d'orientation stratégique pour l'agglomération de Kinshasa. Et c'est ce plan-là qui est en exécution maintenant. C'est ainsi qu'il y a une commission qui travaille pour arriver, d'abord par Kinshasa, à restaurer les normes urbanistiques. C'est-à-dire lutter contre les constructions anciennes. Et c'est le travail qui est en train de se faire.
Voilà. Alors, monsieur Adam, réaction par rapport à ce que les auditeurs ont dit, et puis les plaidoyers d'ailleurs, directement à l'antenne, des directeurs de cabinet, qui attendent de vous aussi cet accompagnement.
Tout à fait. Je dois dire que Odia Vita, il travaille quand même en partenariat avec les autorités, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, voire au niveau local. Le schéma que nous avons, par exemple, pour la ville de Kinshasa, dans le cadre du programme CPAD, c'est en partenariat avec le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme, avec la ville province de Kinshasa, et puis la bourgmestre de la ville de la commune de Masina. Donc, c'est-à-dire que cette recherche de ça, d'implication dans le cadre du partenariat de tous les niveaux de décision au niveau d'un État, me paraît important. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que désormais, l'urbanisation fait appel également à l'élément participatif, c'est-à-dire la population elle-même doit être impliquée. Et tous les documents dont on a fait référence, notamment le plan d'action pour l'habitat dont je parlais, a identifié parmi les défis la plupart de ces éléments, notamment par exemple la question du renforcement institutionnel. Quand un des auditeurs parle de la faiblesse de l'administration, c'est une réalité. Urbaniser sans urbanisme ou autre aspect renvoie au fait que pour prendre en charge, n'est-ce pas, ce processus, il faut non seulement un personnel suffisamment qualifié et qui doit se trouver à tous les niveaux, mais également il faut accéder aux outils modernes, n'est-ce pas, de cette planification. Et c'est notre devoir en tant qu'agence des Nations Unies d'accompagner les États à identifier, n'est-ce pas, tous ces niveaux stratégiques pour pouvoir dérouler leur feuille de route avec l'accompagnement technique que nous pouvons apporter. C'est ça notre ambition, c'est ça que nous essayons de faire. Et je voudrais, avec l'autorisation de Père Cabinet, dire que nous avons été invités à participer, n'est-ce pas, à la commission, n'est-ce pas, de révision du code de l'urbanisme. Donc c'est un instrument important On ne peut pas évoluer sans texte. Il faut un cadre normatif, il faut un cadre juridique. Par la suite, la mise en œuvre va faire appel à d'autres efforts. Mais déjà, il faut trouver les cadres normatifs et les cadres de planification et tous les outils qui permettent en tout cas de montrer qu'on a pris ou on a compris les défis auxquels il faut faire face. Parce que rien n'est plus mauvais que d'avancer les yeux fermés.
Donc, on a déjà vu.
Bien sûr, on a déjà agi, c'est ça qui est passé. Comme je disais au début, le pays est sorti quand même des périodes où aujourd'hui.
Il y a des efforts qui sont réalisés, des avancées très significatives.
Et les efforts sont faits, et le gouvernement se bat pour pouvoir mettre à la disposition quand même des îles, comme également de tous les citoyens, des éléments qui peuvent lui permettre d'accéder à une sécurisation foncière et à des îles sûres dans lesquelles toutes les opportunités de développer. Donc, c'est dire que, par exemple, la question de la réforme foncière va de pair avec la question de l'urbanisation. Donc, la terre, elle est
définitivement liée.
Et effectivement, nous travaillons aussi aux côtés des ministères sectoriels pour qu'il y ait ces cadres de concertation, ces cadres de rencontres, n'est-ce pas, des différents ministères qui vont adresser ces questions-là qui ne peuvent pas être vues de façon individuelle et sectorielle afin de trouver des solutions holistiques, comme nous disons. Parce que l'urbanisation, tant qu'elle n'est pas holistique, globalisée, en permettant de faire en sorte que au finish que les citoyens se ressassent dans un confort de vie en ville, c'est totalement
voilà, le temps se défend, on va s'arrêter là, je pense qu'on va lancer le débat très prochainement pour voir comment ces plans sera exécuté sur le terrain. Nous disons merci à Adam Malam Kalin, responsable de l'unité de l'UN Habitat ici à Kinshasa, et nous disons également merci à monsieur Bongi Eponda et Foloté qui a accepté d'ailleurs notre invitation dans la précipitation d'ailleurs, vous avez été levé ce matin. Voilà, donc merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir partagé avec les auditeurs qui ont contribué ici dans cette émission. Un grand merci et à très bientôt. Voilà, nous profitons pour dire merci à Dieudonné Nyangata qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Lamégi et Julie Feza Bongunda, une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Mugendo sous la supervision de Lola Moulamba. À très bientôt pour un autre numéro.